Alors, merci pour ce tour d'horizon qui était très inspirant et qui, je suis sûre, va soulever beaucoup de questions, mais on y reviendra après. Là, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Perrault. Alors, il est chercheur à l'Institut de santé mentale Douglas également, professeur au département de psychiatrie de McGill, et il va présenter avec Annick Laverdure, qui est coordonnatrice de recherche au centre à l'Institut Douglas également, une communication sur les évaluations d'une consultation en ligne sur les troubles anxieux.
Merci. Vous... Enfin, Christophe vient nous présenter une vision très large d'utilisation qu'on peut faire de l'Internet. Et ce que j'aimerais faire, c'est vous présenter un cas très précis qui nous intéresse. Alors, je pense que ce qu'on va faire, et on va aller assez rapidement, c'est vous présenter tout de même la motivation qu'on a eue à recourir à l'Internet. C'était quoi notre situation et où on en est après quelques années de travail dans ce dossier-là. Alors, je vais aller assez rapidement. Alors, il y a toute une équipe derrière. Je ne les mentionnerai pas, mais Cam, vous l'avez vu tantôt, mais il y a toute une équipe. C'est un projet qui porte sur les troubles anxieux. Et donc, il y a des gens, des groupes de soutien, des chercheurs, des psychologues, de Douglas, Louis H. Lafontaine, de groupes de soutien. Alors, les diapos sont en anglais, for English-speaking people. Si ceux qui sont bilingues, si vous voyez que je dis des choses différentes des diapos, ignorez. Ignorez l'incohérence. Faites comme si j'avais dit les bonnes choses. Alors, ce que je vais vous dire, c'est... Bon, tout de suite, je peux vous vendre la mèche. On travaille sur les troubles anxieux, spécialement les troubles paniques avec agoraphobie. Alors, les gens qui ont des troubles anxieux ont des difficultés à se déplacer, à venir en traitement, et c'était le cœur de notre projet. Ce qu'on va vous présenter, c'est un peu les données qu'on avait sur les traitements, l'étude qu'on a faite sur le net pour mieux comprendre quels étaient les obstacles au traitement de la part des gens qui ont des troubles anxieux. En troisième lieu, on va vous présenter une validation des résultats qu'on a eus sur l'Internet par les consultations qu'on a menées auprès des groupes de soutien. Et c'est les points 2 et 3, c'est Annick qui va les faire. Et ensuite, on va vous parler de résultats tout chauds qu'on a depuis la semaine dernière suite à une seconde vague de consultations auprès des groupes de soutien. Parce que notre hypothèse et ce qu'on a mis en place, c'est une formation pour aider les gens qui ont des troubles anxieux à accompagner d'autres personnes pour les amener vers le traitement. Alors ça, c'est grosso modo ce qu'on vous présente en 20 minutes. Alors sur la motivation, ce qui a déclenché ce projet-là, je peux vous dire que nous, entre 1998 et 2004, on a mené 17 groupes de traitement sur les troubles anxieux à Louis H. Lafontaine et au Douglas. Et ces patients-là étaient soit référés dans les équipes cliniques ou soit qu'ils pouvaient voir des petites annonces soit à l'université ou ailleurs et on pouvait les accepter ou non dans ces groupes-là. Les groupes étaient financés par la recherche. Alors, ce qui s'est passé pour cette démarche-là, c'est premièrement un triage téléphonique qui nous permettait de voir si les gens souffraient ou non de troubles anxieux. Et spécialement troubles panique avec agoraphobie. Et pour ça, on avait des questions. Les gens qui souffrent de troubles anxieux spécialement troubles panique avec agoraphobie, on ressent certaines difficultés, spécialement s'ils se déplacent, ils peuvent ressentir sans juger. Les gens, tout le monde les regarde. Comme actuellement, j'ai l'impression que tout le monde me regarde, mais ça, c'est un phénomène normal et souhaitable quand on donne une présentation. Mais disons que s'ils prennent l'autobus, ils ont l'impression que tout le monde les regarde, ça leur nuit pour leur déplacement et leur univers tend à se rétrécir parce qu'ils tendent à éviter les lieux où ils ont l'impression de perdre le contrôle. Et spécialement s'il y a une attaque de panique qui se déclenche, ça ressemble à une crise d'angine. Cam pourrait vous décrire mieux que moi les symptômes, mais ils ont vraiment l'impression là qu'ils vont mourir. Là, c'est des symptômes physiques qui se déclenchent. Alors, nous, au téléphone, on voulait s'assurer que les gens qui venaient avaient les symptômes. Et ce qui était... je ne sais pas si j'ai une petite flèche là. Ce qui était observé, Et là, vous avez la petite case en rouge. C'est qu'on a 71 personnes parmi celles que nous, on jugeait aptes à suivre, pour qui le traitement devait avoir un sens, qui ne sont pas présentées à la préévaluation clinique. Même si nous, on jugeait au triage qu'ils avaient besoin ou qu'ils étaient éligibles pour le traitement, qui ne se sont pas présentés. Et ces gens-là sont ceux qui nous intéressent. Pourquoi ils ne sont pas présentés? Et parce qu'on soupçonne que c'est à cause de leurs symptômes. Et donc, quand on offre le traitement, et au tout début, quand on a démarré ça, notre objectif, c'était d'aller voir la case que vous voyez en rouge, c'est-à-dire ceux qui abandonnaient le traitement. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la rétention en traitement? Mais si on examine seulement ceux-là, c'est qu'on travaille avec les gens qui ont réussi quand même à se rendre au traitement et à se présenter et à poursuivre. Et donc, on s'est rendu compte avec les groupes, notre expérience, qu'on avait intérêt à travailler vraiment avec ceux qui ne viennent pas en traitement. Alors, quelle est la conclusion de cette première partie de cette magnifique étude? C'est que si on veut améliorer l'efficacité du traitement, il faut qu'on pense sérieusement à quels sont à faciliter l'accès au traitement. Que deuxièmement, les symptômes qui sont reliés à ce problème-là devraient être aussi considérés. Moi, je dirais, troisièmement, c'est qu'on n'est pas très bon, nous, à identifier ou à organiser les services pour qu'ils soient facilement accessibles, puisque, comme vous avez vu tantôt, on a beaucoup de gens qui ne se pointent pas, qui ne viennent pas initier le service. Alors, notre besoin, et ça, c'est suite à la suggestion des gens de Phobie Zéro qu'on a consulté, qui est un groupe de soutien qui travaille avec les gens qui ont des troubles anxieux, c'était d'aller consulter les gens eux-mêmes, mais pas de n'importe quelle manière, pas en utilisant l'Internet, parce qu'on nous a dit, les gens qui ont des difficultés à se déplacer, ils sont devenus souvent excellents à utiliser l'ordinateur parce que ça leur permet justement d'éviter de se déplacer. Alors, on a mené cette consultation-là et Annick va vous présenter les résultats de la consultation et la première étape d'évaluation.
Oui. Donc, pour en apprendre un petit peu plus sur justement les obstacles au traitement, ce qui faisait en sorte que les gens ne se présentaient pas en traitement, on a fait une étude sur le web. On voit ici un petit peu des données semblables à celles que Christophe Herbert vient de présenter, donc autour de 85 % d'utilisation du web au Canada. Au niveau des troubles anxieux, plus particulièrement, on parle d'une prévalence d'environ 11 %. Donc, il y a 11 % de la population qui, dans sa vie, va vivre soit l'agoraphobie, soit le trouble panique ou encore la phobie sociale. Donc, on rejoint, si on veut, une bonne partie de la population en s'intéressant aux troubles anxieux. Donc, le questionnaire qu'on a utilisé, il s'adressait aux personnes à la fois qui avaient un trouble anxieux eux-mêmes et aux proches aidants. Donc, on était intéressé à savoir un petit peu les deux perspectives, les deux côtés de la médaille. Ce questionnaire-là a été mis en lien sur les sites web de nos partenaires, dont Michel a parlé tout à l'heure, particulièrement sur les sites des associations communautaires, les groupes de soutien. Puis, il y a aussi des affiches qui ont été distribuées autant dans les cliniques privées que dans les universités. Donc, entre avril et novembre 2008, on a quand même réussi à rejoindre 714 personnes qui ont complété notre questionnaire. Parmi ces gens-là, donc il y avait 653 personnes qui étaient elles-mêmes aux prises avec un trouble anxieux et 61 proches. Donc, au niveau des données sociodémographiques, il y a certains éléments qui nous ont étonnés. Premièrement, il y a environ 60 % de notre échantillon qui était âgé entre 25 et 44 ans. Donc, on peut dire qu'on rejoint une bonne partie, mais encore là, c'est limité puisqu'il y a seulement 1 % des gens qui ont répondu à notre questionnaire qui avaient 65 ans et plus. On peut s'y attendre, c'est pas une grande surprise étant donné, bon, l'utilisation d'Internet qui est pas aussi populaire auprès des personnes âgées, mais encore là, ça se développe et ça s'en vient plus populaire. On a aussi obtenu un pourcentage de sexe féminin de 72, près de 73 %. Donc ça nous a étonnés, parce que oui, il y a plus de femmes que d'hommes qui souffrent de troubles anxieux, mais pas à ce point-là. Puis au niveau de l'éducation aussi, il y a 40 % de nos répondants qui ont un diplôme universitaire. Donc, on parle autant d'un certificat universitaire que d'un doctorat. Donc, si on compare à la population en général, c'est autour de 20 %. Donc, ça aussi, on a une surreprésentation à ce niveau-là. Puis, on remarque qu'il y a 30 % de l'échantillon qui n'a pas d'emploi en ce moment, donc qui ne travaillait pas. Mais parmi l'échantillon complet, il y avait quand même 40 % qui ont dû interrompre leur travail ou s'absenter du travail à un moment ou à un autre de leur vie à cause de l'anxiété, à cause des symptômes d'anxiété. Donc, juste un petit élément sur les problèmes qui ont été diagnostiqués par, en fait, qui ont été rencontrés par les personnes qui ont répondu au questionnaire. On remarque qu'il y avait 3/4 de nos personnes qui avaient été diagnostiquées avec un trouble anxieux, alors que les autres s'étaient auto-diagnostiquées, si on veut. Puis, parmi les diagnostics retenus, il y a la phobie sociale qui est surreprésentée avec 22,4%. Donc là encore, il y a l'aspect de la symptomatologie qui peut être intéressante du fait que, justement, ces gens-là ont habituellement beaucoup peur du jugement, beaucoup peur des situations nouvelles. Donc, l'Internet est plus rassurant. Peut-être que c'est pour ça qu'ils sont plus représentés à ce niveau-là. Au niveau de la consultation, il y avait quand même 70 % un petit peu plus de 70 % des gens qui avaient déjà consulté pour leurs difficultés. De ceux-là, il y a quand même 65 % qui estiment qu'ils n'ont pas reçu le traitement approprié pour leur trouble d'anxiété. Donc ça, c'est un élément intéressant aussi. Puis au niveau de la satisfaction, il y a un petit peu plus d'un participant sur deux qui a été satisfait, très satisfait ou entièrement satisfait en fait, des services qu'ils ont reçus. Donc, au niveau de la satisfaction des services, on a du travail à faire aussi. Donc, si on en revient aux obstacles qui nous ont nommés, il y en a en fait 4 qui sont ressortis comme étant un petit peu plus importants. On parle du coût des services, le coût relié aux services. Le fait de ne pas savoir où aller chercher l'aide aussi. Donc, des fois, on sait qu'on a besoin d'aide, on est prêt à y aller, mais on ne sait juste pas où aller. Donc, ça aussi, c'est un élément important. Puis au niveau des assurances, souvent les services sont soit pas couverts par les assurances ou les personnes n'ont pas d'assurance pour couvrir les services. Et le fameux temps d'attente avant d'obtenir les services aussi. Quand on les a questionnés sur la pertinence d'avoir recours à des pairs aidants pour les aider, en fait, il y a quand même le 2/3 des personnes qui nous ont indiqué que nous, on croit que des gens qui ont déjà souffert d'anxiété ou des gens qui vivent nos difficultés seraient en mesure de nous aider. Donc, ça nous a particulièrement intéressés. Puis, parmi nos 714 répondants, il y en a quand même 82, ça représente plus de 10 % qui ont donné leur nom pour faire partie d'une formation de pair aidant. Donc, ils étaient intéressés au point d'eux-mêmes devenir pair aidant. Donc, ce qu'on a conclu de cette étude-là, c'est dans le fond que le web est un moyen efficace de rejoindre des personnes qui sont aux prises avec des troubles anxieux. C'est aussi une bonne façon de les questionner dans le sens où, malgré qu'il y avait plus de 170 questions à notre questionnaire, il y a moins de 10 % des gens qui ont interrompu la complétion du questionnaire. Puis, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'échantillon, il y avait, par exemple, une surreprésentation des femmes, puis une surreprésentation des gens qui étaient particulièrement éduqués aussi. Et puis, on remarque que le web est aussi une bonne façon de recruter des pairs aidants. Donc, après ça, on s'est questionné à savoir est-ce que nos résultats sont valides ou si c'est le fait qu'on est allé les chercher sur le web qui explique un petit peu la teneur des résultats qu'on a eus. Donc, pour valider tout ça, on est allé rencontrer 7 groupes de soutien de l'organisme Phobie Zéro, qui est un organisme pour les personnes qui sont aux prises avec des troubles anxieux et leurs proches aussi. Donc, comment ça a fonctionné, cette consultation-là? C'est qu'on leur présentait en début un questionnaire qu'on leur demandait de remplir. Pendant qu'une partie de l'équipe allait compiler les résultats de ce questionnaire-là, l'autre partie de l'équipe leur présentait un petit peu la démarche et puis les résultats qu'on avait obtenus sur le web. Puis à la toute fin, en fait, on comparait les résultats à leur questionnaire aux résultats qu'on a obtenus sur le web, puis on les faisait discuter un petit peu de, selon eux, qu'est-ce qui explique les résultats qui ont obtenu, les différences entre le web et puis ce qu'on retrouvait chez Phobie Zéro. Donc, c'est comme ça que ça s'est déroulé. Ce qu'on a constaté, dans le fond, c'est que les mêmes obstacles sont ressortis. Le niveau des coûts, où aller, les assurances et le temps d'attente entre la demande de services et les services en tant que tels. Ce qu'on a pu faire, c'est documenter un petit peu plus ces obstacles-là. Donc, ce que les gens nous disaient, c'est « j'ai payé l'équivalent de paiement d'automobile pour rien, pour voir un psychologue qui bâillait devant moi quand je lui parlais de mes problèmes. » Donc, ça soulève le coût des services. Puis ça soulève aussi au niveau de l'information ou la formation des professionnels qui sont experts. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui nous disait que le médecin m'a pas bien présenté la chose. J'ai dû aller en thérapie par moi-même, donc faire les démarches par moi-même. Et puis, il y en a d'autres qui disaient que les psychologues étaient formés pour gérer ou pour nous aider avec l'anxiété de tous les jours, mais pas avec les troubles anxieux à proprement dit. Donc, si je termine avec la conclusion, dans le fond, c'est qu'on a ressorti les mêmes obstacles. Et puis là, ce qu'on a fait ensuite, on a retenu l'élément pair aidant. Et puis, Michel va pouvoir vous présenter un petit peu la suite de ce projet-là.
T'es dû pour un verre d'eau, je pense?
Oui, j'ai la sèche.
Alors, ça fait rien, c'est moi qui finis. Alors, merci, Annick. Ce qu'on a fait, en fait, ce que Annick nous a présenté, ça nous confirme aussi que le web a été... On a rejoint 714 personnes en quelques mois. Et je peux vous dire, nous, dans les années qui ont... Vous avez vu sur quelle période on a mené les groupes, c'est très difficile de rejoindre les gens et de les amener ou de les consulter. Et le web nous a vraiment permis d'avoir accès à ces personnes-là et de leur opinion sur les obstacles au traitement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté cette formation de pairs aidants, des pairs aidants qu'on a formés pour les aider, les accompagner, les soutenir. Et ce qu'on vient de faire la semaine dernière, c'est qu'on était dans trois groupes qui ont monté cette formation-là, qui l'ont implantée, qui ont donné les 11 ou 12 semaines, 13 semaines, en fait 12, puis nous, on était le dessert, la 13e semaine, on allait les consulter, et on a été voir comment ça se passait, et à travers cette consultation-là, ce que ça nous a permis de constater, c'est, attendez, j'essaie d'aller rapidement, c'est que les gens qui étaient les pères aidants, qui ont appliqué nos principes ou nos formations, ont des besoins de eux-mêmes avoir accès à l'évolution du traitement, à échanger entre eux. Il y a eu trois groupes, il y en a un nouveau qui démarre cette semaine, qui démarrait cette semaine à Montréal, et là, il faut qu'ils échangent entre eux. Et là, comment mettre l'information à jour pour les pères aidants, pour qu'ils puissent continuer leur travail, et comment échanger, les soutenir là-dedans. Oups! Là, nous, on réalise que le web, ça peut être une solution utile. Parce que là, on communique à la pièce, et c'est difficile d'avoir un site qui tient compte de l'évolution du projet. Deuxième point, au niveau même du contenu, les manuels de traitement, tout ce qu'on a monté, il y a des mises à jour qui doivent se faire, et comment procéder pour mettre tout le monde à niveau. Et là, on s'est dit aussi, le web, c'est une solution. Les participants, et je sais qu'il doit rester 32 secondes à peu près. Alors, les participants, ce qu'ils nous ont dit, c'est eux aussi, le groupe se termine. Ils ont été aidés par les pères aidants, mais ils ont toujours des questions. Il y a des choses qu'ils aimeraient faire. Ils aimeraient échanger entre eux. Et je veux juste vous dire, sur trois groupes qu'on a fait, il y en a un qui était déjà, les participants étaient déjà organisés sur Facebook. Et donc, ils s'étaient créés un site avant même que nous, parce que nous, on se croyait vif, intelligent et rapide. Alors, on s'est dit, on va monter un site, on va évaluer, on va les amener échanger. Et là, on arrive, puis pouf, ils sont déjà en place et ils le font déjà. Sauf que la qualité, on peut se questionner sur la qualité. On peut pas nier leur expérience et la force de leur échange, mais on peut dire qu'il y aurait peut-être de la place pour nous pour qu'on puisse comme continuer à les appuyer. Et je dirais, c'est peut-être ça la conclusion, c'est le web nous a aidé à rejoindre les gens, à identifier les obstacles, à monter un programme de pair aidant. On a eu 60 personnes qui se sont prêtées bénévoles pour devenir pair aidant à travers le web. On en a recruté uniquement 5 parmi eux. Et là, même parmi les gens qui ont été aidés, les pair aidants aussi, on voit que le web va nous aider à soutenir la démarche qu'on a initiée et qu'au début, on voyait vraiment comme une démarche classique, avec les moyens classiques. Et là, on est carrément entraîné dans l'utilisation de ce moyen-là. Alors, c'est la conclusion. Merci.